Chapitre 3, découverte de la vaccine. Ce fut l'anglais Edmond Jenner qui dota le monde de ce curieux et homéopathique préservatif. Le Parlement lui décerna une récompense nationale de 20 000 livres sterling, et ce n'était pas trop cher pour racheter au prix d'un demi-million de francs la vie de tant d'hommes et la beauté de tant de femmes. Pour la même découverte, Échalot, inventeur et similor, son collègue, n'eurent droit rigoureusement qu'à 3 francs 50 centimes. Avec cela, on ne peut pas s'assurer un avenir. Trahi sans cesse par la fortune ennemie et ne pouvant arriver à commettre aucun des crimes qui procurent au théâtre aux gens adroits et dissimulés des richesses immenses et le respect mal placé de leur quartier, ces deux garçons se creusaient incessamment la cervelle. Similor dans un but d'ambition égoïste, Échalot pour Similor et surtout pour cette tendre créature, Saladin, dont il était la mère de lait. Un instant, l'espoir était entré dans leur cœur, l'espoir suivi de tout son cortège de beaux rêves. Ils avaient entrevu la possibilité de tuer la femme. Les deux jeunes gens, leurs voisins, mordus par le théâtre à un autre point de vue, avaient eu la cruauté de rire de leurs modestes prétentions. Car, croyez-le bien, Échalot et Similor n'auraient pas pris cher pour tuer la femme. Et cela leur eût coûté parce qu'ils avaient l'âme sensible. Depuis lors, ils voyaient la vie en noir. Il faut se raisonner pour arriver à vouloir tuer la femme. Quand on a fait ce travail d'esprit et de cœur et que la résolution, une fois prise, vaillamment, sérieusement, à fond, la femme manque, le vide de l'existence apparaît tout à coup. On voit, à n'en pas pouvoir douter, que la vie est un monstrueux tas d'illusions et qu'il n'y a rien de vrai ici-bas, sinon la misère. Tel était le cas d'Échalot et de Similor. Ils avaient passé la nuit du dimanche au lundi à dormir, un sommeil fiévreux, plein d'aspirations impossibles. Similor se vautrant avec l'emportement de sa riche nature au sein des orgies les plus touffues, Échalot rangeant un petit ménage imaginaire et plaçant à la caisse d'épargne le prix du carnage accompli dans des conditions respectables. Pour l'un, c'était la barrière, ce vineux paradis des bouteilles cassées, des femmes débraillées, la danse des salons, les rivaux boxés, l'odeur enivrante de la cuisine, la fumée des pipes. Il ne voyait là-dedans que lui seul, rien pour l'ami fidèle, rien pour l'innocent rejeton. Ces viveurs font ainsi. Pour l'autre, c'était le chez-soi, les draps dans le berceau, 2 litres flanquant sur la table, un plat copieux de petits salés, un peu de feu dans un bon poêle, 2 onces de caporal au fond d'un pot et une pincée de pièces blanches dans le gousset. Similor heureux, Saladin endormi, ou souriant de toute la largeur de sa pauvre grande bouche barbouillée de lait maigre. Voyez la différence qui peut exister entre 2 organisations simples formées à l'école du malheur. Le point de départ était le même, la femme tuée, mais quel usage opposé Échalot et Similor faisaient de leur légitime bénéfice. Au réveil, Échalot revit la mansarde nue. Saladin criait dans sa bourriche. Similor, en rouvrant les yeux, constata qu'il n'y avait là ni bouteille ni femme. Ce sont d'amers instants. La toilette de nos 2 amis n'était pas généralement une opération compliquée. Similor avait de la coquetterie, mais cette vertu chez lui n'allait jamais jusqu'aux ablutions. Il démêlait ses cheveux à l'aide d'un atroce fragment de peigne et fatiguait ses locks à force de les brosser, voilà tout. Échalot, foncièrement propre, époussetait son tablier et raclait ses mains avec une vieille lame de couteau qui servait aussi à l'entretien de sa chaussure. On n'est pas maître de cela, l'eau fait horreur. Inutile d'ajouter qu'il dormait en grand costume, sauf le chapeau gris et le chapeau de paille qui chômaient pendant la nuit. Allons, dit Similor avec un soupir profond, j'en ai fait de crânes songes. Mais il fuit au réveil comme une vapeur légère, répliqua Échalot, doucement résigné. La coquine l'a encore échappé, gronda l'ancien maître à danser. Il s'agissait, bien entendu, de la femme à tuer. Échalot se mit sur ses jambes pour aller au cri de Saladin. En voilà une qui a la vie dure, soupira-t-il. Dodo, l'enfant d'eau. Allonge-le une calotte, conseilla Similor. Allonge plutôt un sou pour lui acheter du lait, Amédée. Il n'est pas l'auteur que nous éprouvons des tortures. Similor ne daigna pas répondre. Il essaya de se rendormir, mais son estomac faisait comme Saladin. Il criait. De guerlas, il se leva à son tour et chercha dans les coins d'un œil sournois pour trouver quelque chose à vendre. C'était la centième fois qu'il opérait vainement en pareille recherche. Il gronda et jura. Échalot essaya de le calmer avec des paroles pleines d'aménité. C'était bien un ménage, cette bizarre association. Échalot était l'amère, douce, résignée, active, gardant héroïquement la maison misérable. Similor était le père, bruyamment gai, quand le ventre était plein, bourru, brutal, lugubre, quand le foin manquait au râtelier. Il mit son chapeau gris de travers sur ses cheveux plats et dit « Je vais faire un tour aux queues, car il faut toujours que je me démanche, moi, pendant que tu te dorlotes avec le petit. » « C'est vrai que je la passe douce, » murmura Échalot, avec une petite pointe d'amertume. L'ancien maître à danser haussa les épaules et se dirigea vers la porte en mordillant un bout de cigare. « Amédée, » dit Échalot, « si tu trouves quelque chose aux queues, rapporte un sou de lait et viens embrasser Saladin avant de partir, car le baiser d'un père est un baume pour son enfant. » Similor s'approcha de mauvaise grâce et mit ses lèvres barbues sur le front terreux de l'enfant qui hurla, piqué par les rues de poils. « Vilain oiseau » grommela-t-il. Les larmes vinrent aux yeux d'Échalot qui prit Saladin dans ses bras et le berça. Faire un tour aux queues était une industrie. Pour s'y livrer, un diplôme n'était pas indispensable. Au temps où le boulevard du crime florissait, le tour des queues commençait à la porte Saint-Martin et finissait au petit Lazari. Les rôdeurs allaient comme des fourmis à la file, longeant toutes ces maisons dramatiques, et personne ne verra jamais procession plus piteuse. Tous les gens qui ramassent les bouts de cigares étaient là, les femmes de Huron, les enfants errants, les beaux de la fashion souterraine. Certains ont fait pendant 10 ans cette célèbre tournée sans trouver un liard vaillant, mais des prédestinés sont tombés sur une pièce de 50 centimes. On sait cela, c'est la légende, la chance peut venir, la place est bonne. Échalot, resté seul, se mit à bercer Saladin qui avait appétit et ne se payait point de caresses. Il était dur comme une pierre, ce malheureux bambin, mais l'abstinence a ses bornes. Saladin criait comme un enragé. Des convulsions secouaient son petit corps étique. Tout ce qui lui restait de sang était à ses joues, et il faisait une grimace véritablement diabolique. « Dodo, l'enfant d'eau, » disait Échalot, avec son admirable patience. « Il est beau, le petit, à sa mémère. Papa va lui apporter du lolo, dodo. » Ah, c'était précisément ce que voulait Saladin, et tout de suite du lolo. Combien de fois les vœux d'Échalot n'avaient-ils pas appelé ce miracle un changement de sexe? Combien de fois ne s'était-il pas vu, entr'ouvrant sa veste de pharmacien pour donner le sein aux petits? Dans les promenades, il regardait les nourrices avec envie, et par une attendrissante association d'idées, il contemplait aussi les militaires avec plaisir, parce que ces braves sont l'amusement des nourrices. Échalot était sublime. « Dodo, l'enfant d'eau, ah, papa, m'aider à bon cœur, biribi, bibi, ah, mon petit chéri, caribi, oui !» Il élevait Saladin au-dessus de sa tête et le faisait redescendre vivement. C'était un joli jeu pour les enfants repus. Saladin, tout mièvre qu'il était, avait un creux solide. Il vociférait avec une abondance nouvelle, et les oreilles du triste Échalot tintaient. Il finit par se fâcher. « Petit filou, » dit-il en le déposant par terre, « je vais m'asseoir dessus toi, parole d'honneur. Ça m'énerve de t'entendre. » Puisqu'on t'en fait le serment qu'on n'a rien dans les mains, rien dans les poches, tu vas taire ton bec. » Saladin n'en hurlait que mieux. « Eh bien, s'écria Échalot, renonçant à l'idée de l'étouffer, tant pis si l'autorité me punit, je vas me rabaisser jusqu'à demander l'aumône. » Il sortit en proie à une indicible émotion, car il avait le cœur haut et la pensée de tendre la main l'humiliait jusqu'à la détresse. Heureusement, il n'eut pas besoin d'en arriver là. Le déjeuner d'une voisine était sur le pas de la porte. Échalot le chipa. Il se dit en regagnant sa tanière, « Tout de même, on se fait la main, je vais narrer la chose à Amédée. » Comme quoi, poursuivit-il en abreuvant maître Saladin, qui se tut aussitôt que la nourriture eut touché son bec, « Puisqu'on est réduit à la ficelle, tu sauras t'en servir avec adresse, pas vrai, trésor ? Avale-t-il, mais avale-t-il ? Tu vas t'étrangler, farceur ! Ça fait du bien, fiston !»« Quoique ça, murmura-t-il, attristé tout à coup, la voisine n'est pas riche, et je comptais élever mon Saladin dans les sentiers de l'honneur avec le poil à gratter. Mais, bah, on rendra le sou de lait de la voisine sur la première affaire, et l'enfant ne saura pas par quelle manigance on lui aura fait sa fortune, dont il jouira plus tard. » Il avait faim. Néanmoins, il versa religieusement dans la bouteille le reste du repas de Saladin qui dormait déjà comme un loir. Un bonheur ne vient jamais seul. La voix prétentieuse et fausse de Similor exécuta des roulades dans l'escalier. Un violent espoir serra le cœur d'Échalot, qui pensa, « Ah, ceux du quatrième lui ont peut-être reparlé pour la femme. » Similor entra d'un air vainqueur et jeta sur la table une poignée de gros sous. « À la queue ?» demanda Échalot, ébloui. « Oh, si vous ne m'avions pas, » dit Similor, au lieu de répondre, « la maison tomberait. » Les narines de l'ex-pharmacien se dilatèrent avec une soupçonneuse volupté. « On a bu de l'eau de vie, Amédée, » prononça-t-il. « Eh bien, après, il a été juré qu'on ne prendrait rien en cachette. » « La paix, Bibi. Ah, pour faire des affaires, faut s'entendre avec la personne, pas vrai ?»« Oui, Amédée, » dit la ménagère d'un ton radouci, « quelle personne ?»« Pour s'entretenir avec la personne, on entre dans un café estaminet, billard, si c'est l'étranger qui offre. » « Tu es rond, parole sacrée !» s'écria Échalot avec admiration et envie. Prends ton chapeau, nous saurons bientôt de quoi ils retournent dans tout leur mystère de « fera-t-il jour demain ?» et autres. Je paie deux saucisses et l'arrosage. « Ah, merci, mon Dieu !» murmura Échalot. « Les jours heureux vont-ils enfin luire pour nous ?» Similor approuva cette exclamation. « Il y a un être suprême pour le vulgaire, dit-il, ça ne fait pas de doute, mais celui qui a de l'atout sait se mettre au-dessus par son audace. L'honnêteté, c'est pour les bêtises, on s'y laisse pourrir toute sa vie dans le besoin. Si on n'avait pas eu la faiblesse de tenir à l'honneur dans le principe, je n'aurais pas manqué les diverses occasions et je pourrais chasser au loin l'indigence qui nous oppose de faire des affaires. Car si tu es pauvre, on aura l'injustice de te mépriser dans l'ordre social. Au contraire, si tu t'es procuré l'aisance par des infidélités, le quartier t'ôtera son chapeau. Est-ce vrai ? C'est vrai, fit Échalot, qui pêchait sous le lit des petites loques impossibles à décrire. Conséquemment, reprit Similor, qui avait sa pose d'orateur, la société française est composée d'imbéciles et de financiers qui savent tirer leur épingle du jeu avec adresse. Les premiers sont la dupe des autres, toujours gémissant sous l'oppression de l'hypocrite qui a fait son beurre et qui dit « c'est à moi ». Ça, c'est la loi, ouvrage de celui qui a bourré ses poches le premier. Alors, veux-tu rester dans l'opprobre de la gêne et ne jamais voir de quoi te repasser aucun plaisir ? Non, non, répliqua Échalot, qui faisait un paquet de ses loques. On a déjà convenu qu'on dédaignerait les vains préjugés de l'honneur. Allume alors, on profitera au moins de ces crimes. Qu'est-ce que tu veux faire de ces mouchoirs-là ? C'est ma lessive à m'aider. Je vais laver des affaires de Saladin dans le canal. Il prit son paquet, il prit Saladin et la bouteille. L'idée de manger une saucisse entourait son front de rayons. Similor, nature plus mondaine, avait un peu de honte du paquet et beaucoup de l'enfant. Dans sa pensée, l'innocente créature nuisait à ses succès auprès des dames. Nous éprouvons une sorte de pudeur à peindre cette mâle famille circulant dans Paris. Échalot, chargé de son triple fardeau, Similor, toujours beau, toujours fier, lançant des œillades assassines à travers les devantures des magasins et s'éloignant volontiers de son camarade pour faire croire qu'il était célibataire. Ils prirent place dans une gargote austère, devant une table de sapin, noire comme de l'encre, où reposaient une salière et un moutardier. Saladin, le paquet et la bouteille furent suspendus à la muraille à l'aide d'un clou faisant office de patère. Une vieille femme, qui devait expier là de bien un pardonnable forfait, vint les servir avec défiance. Ah, la chose de notre avenir assurée dans la carrière du crime, dit Similor d'un ton d'affaire, te sera communiquée avec la manière de se servir du « fera-t-il jour demain » et autres. C'est Picpus qui a régalé ce matin. « Monsieur Picpus !» s'écria Échalot, émerveillé. « Parle avec prudence. Ces machines-là n'ont pas coutume de s'égosiller à haute et intelligible voix. Les fameuses, la saucisse !» Passable. Un temps qui sera, on fera d'autres extras plus coûteux. Mais pour revenir au mystère que nous allons y coopérer, il n'est que pour mercredi. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Échalot. Et Similor mit un doigt sur sa bouche. Ah, c'est donc encore deux grands jours à vivre de nos propres ressources, reprit-il. Je ne veux plus manquer de rien, toi non plus. C'est à nous de faire appel à notre astuce pour résoudre le problème. Avec 25 francs, penses-tu qu'on pourrait aller jusqu'à mercredi ? Échalot passa le revers de sa main sur ses lèvres. 48 heures d'opulence. Eh bien, acheva Similor, j'ai trouvé un truc. Il faut sauver le noyé, ça donnera 25 francs de prime. Tu as un noyé ? Demanda Échalot hébété. Oui, Bibi, c'est toi le noyé, comme de juste, et c'est moi le sauveur, et c'est un truc celui-là. Au point de vue moral, Échalot n'en avait que plus de mérite à laver de temps en temps au canal la demi-douzaine de mouchoirs qui formaient la layette de Saladin. L'eau lui faisait dégoût à ce point qu'il négligeait, par crainte de l'eau, son talent de pêche à la ligne. L'idée de Similor était bien simple. Il voulait jeter Échalot dans l'écluse et puis le repêcher. Seulement, Échalot ne voulait pas. « Tu ne sais pas nager, dis donc, l'ancien !» protesta ce dernier, qui frissonna de tous ses membres et repoussa son assiette. « Je trouve que c'est des vilains jeux. »« Vas-tu caponner ?» demanda Similor, menaçant. « Je fais toujours ce que tu veux, mais l'eau, ça n'entre pas dans mes idées. » « Et tu dis que cette créature-là t'est chère ?» s'écria Similor, en levant ses deux bras vers Saladin endormi qui pendait à son clou. « Mange, propre à rien. À quoi ça sert d'opérer des inventions nouvelles ? Mange, mange !» Mais Échalot n'avait plus faim. On lui avait gâté son déjeuner. « Amédée, dit-il avec tristesse, tu m'offenses dans mes sentiments les plus sacrés. Il n'y a pas d'Amédée, tu arrêtes une entreprise. » « Oh, j'aimerais mieux n'importe quoi que l'écluse. As-tu un autre moyen de gagner 25 francs ?» Similor, qui avait expédié sa saucisse, attira vers lui l'assiette de l'ex-pharmacien et se remit à la besogne. « Écoute, dit Échalot, sans se plaindre de cette spoliation qui lui déchirait le cœur, c'est profond l'écluse ?»« Oui, riposta Similor, mais ce n'est pas large. » « Eh bien, jette-toi dedans et je te donne ma parole sacrée que je te rouerai. » Similor le foudroya du regard. « Avec ça, répliqua-t-il, en achevant le demi-setier, qu'un bain après le repas, c'est la mort subite de ton ami. » Échalot eut la délicatesse de ne pas rétorquer l'argument. Jamais il n'abusait de ses avantages, et c'est ce qui rendait son commerce si agréable. On se remit à chercher des trucs. On va, on vient, on flaire, on furette. Et certes, c'est le cas d'éditer ici ce poème gracieux, cette idylle attendrissante et toute parisienne, la naissance de Saladin, enfant de théâtre et de carton, appelé peut-être à dompter des lions, à dévorer des sabres ou à jouer les utilités avec quelque éclat sur les scènes de l'ambigu comique. Le chapeau gris de Similor était plus jeune de 3 ans. Échalot balayait une pharmacie borgne de la rue de Vaugirard. Similor, aimable et fait pour plaire, donnait encore des leçons de danse à la barrière de Montparnasse. Ida Corbeau, dite joue d'argent, invalide de la conquête d'Alger, vendait des citrons, des sucres d'orge et de la limonade en face du dôme. Elle était vénérée dans le quartier et connue pour avoir de nombreuses intrigues avec les débris de nos gloires. Ida Corbeau, ancienne vivandière de haute taille, était joueuse, déjetée, coiffée de cheveux grisâtres et mâlement moustachus. L'origine de la joue postiche qu'elle portait au côté droit et qui donnait quelque chose d'imprévu à son aspect restait un mystère. Jusqu'alors, Échalot et Similor, se suffisant l'un à l'autre, n'avaient pas aimé. Ils virent Ida, un soir, qu'elle prenait abondamment le rogomme à la barrière, entourée d'une cour nombreuse et choisie. Ce feu, dont parle la lesbienne Sappho en ses vers immortels, circula aussitôt dans leurs veines. L'air leur parut tiède, la brise plus parfumée. Ils comprirent le printemps, le chant des oiseaux, le sourire des fleurs. Ida entonna un couplet patriotique. Elle dansa avec un cavalier qui avait 2 jambes de bois. Le destin de nos amis fut fixé. Mais Échalot devait jouer ici, comme toujours, le beau rôle de l'ami qui se sacrifie. Au bout de 2 mois passés dans ce jardin d'Armide, à la porte duquel restait le mélancolique Échalot, Similor éprouva une grande joie et un grand orgueil. Elle était mère. À dater de ce jour, Ida Corbeau ne sortit plus de la boisson. Similor permit alors à Échalot de lui payer quelques douceurs. On passait de longues journées à imbiber Ida, qui songeait sérieusement à se ranger plus tard. Ce fut Échalot qui trouva ce nom de Saladin, parce que Joue d'argent aimait la salade. Un soir, Ida voulut faire un extra, mais c'était impossible. Elle rendit l'âme au moment où Saladin entrait dans ce monde. Le petit coquin naquit ivre. Échalot jura de faire son éducation. Similor, inconsolable, désira sauver au moins la joue qu'il avait tant aimée. Ce fut un chagrin de plus. La défunte l'avait trompé, la joue était en éteint. Ainsi finit cette femme intempérante. Vers midi, Madame Eustache, la maîtresse du cabaret, voyant qu'on ne consommait plus, mit nos 2 amis à la porte. Échalot et Similor étaient de ceux qui peuvent battre 12 heures durant, sans fatigue ni rancune, le pavé de la métropole. Ils se promenèrent longtemps, lentement, en zigzag. Vers 8 heures, ils avaient fait 8 lieues et aucun truc utile n'était sorti de leur collaboration. L'appétit grandissait. L'odeur des gargotes devenait de plus en plus attrayante. Ils se mirent à causer gourmandise et à bâtir le menu de repas de corps qu'ils devaient s'offrir le surlendemain, après l'affaire. Ils étaient auprès de la rotonde du temple lorsque leurs yeux tombèrent simultanément sur une affiche collée à hauteur d'homme. Qui eut l'idée du truc, tous 2 ensemble et d'une seule voix, ils s'écrièrent « Ah, voilà, un boni de 3,50 francs !» Ils avaient découvert la vaccine. L'affiche portait en substance « Mairie du 6e arrondissement, vaccination gratuite de 10 heures à midi, hôpital Saint-Louis. La prime est fixée à 3,50 francs pour les parents munis d'un certificat d'indigence. » Saladin n'était pas vacciné. Un instant, Échalot et Similor restèrent sans parole. La découverte du truc produit la joie qui étouffe. Il y avait pourtant un obstacle, c'était le certificat d'indigence. « Parbleu !» décida Similor, « tu iras le demander tout seul. »« C'est toi le père naturel !» objecta Échalot. On conçoit l'horreur instinctive de nos deux amis pour les lieux où se délivrent les certificats. Échalot, cependant, avait son idée. Il s'approcha de l'affiche et la décolla, d'un seul temps, sans la déchirer. Aux interrogations de Similor, il répondit « Amédée, on poussera ces 3,50 francs jusqu'au double et triple par mon adresse. En plus, on épargnera la douleur à ton enfant de subir les tortures de la lancette. » Il y a quelque chose de supérieur à l'argent, c'est le crédit. Et que faut-il pour établir le crédit? Un titre. L'affiche était un titre. Elle constatait que Saladin valait 3,50 francs parce qu'il n'était pas vacciné. Une fois vacciné, Saladin ne valait plus rien. Muni de l'affiche et de Saladin, Échalot et Similor commencèrent une triomphante tournée. Eux partout, on leur ouvrit un crédit de 10 sous sur leur gage vivant. Roulant de cabaret en cabaret, ils connurent l'abondance, et Saladin fut sauvé de la vaccine. Le lendemain soir, las de volupté et bourrés comme des canons, ils se reposèrent sur un banc du boulevard du Temple. Saladin avait eu sa part de l'orgie. Il était un peu incommodé. On le mit au frais, sous le banc, et l'on causa. 100 mélodrames les entouraient. Ils n'avaient qu'à choisir. Du banc où ils s'asseyaient, ils pouvaient voir la galiote et l'entrée du couloir étroit qui conduisait à l'estaminet de l'épicier. C'était la terre promise, mieux que cela, le paradis. À Paris, le seul fait de fréquenter certains cafés communique la gloire contagieuse. Le café anglais, Tortoni, riche, sont des lieux illustres qui postent un jeune homme. À l'épicier, c'était la haute. Il y avait des mois, peut-être des années, qu'Échalot et Similor nourrissaient l'ambition de franchir ce respectable seuil. Ils n'osaient pas. La bonne chère enhardit le cœur que le succès relève. « Quoique que ça, que le rendez-vous est fixé à demain, » dit Échalot, d'ordinaire si timide, « on ne nous avalerait pas là-dedans ce soir. Pas vrai, Amédée ?» Le désir de Similor n'était pas moindre, mais il avait conscience de l'énorme supériorité de Monsieur Picpus. Ah, il est avec tous fashionable, répondit-il, faiseur d'embarras comme Monsieur Cocotte, et peut-être même encore plus huppé. Faudrait le prétexte d'avoir là une connaissance à voir, ou, comme qui dirait, l'occasion de leur apprendre en entrant. Voilà ce qui vient de paraître. En ce moment, un homme en costume quasi militaire se dirigea de la galiote vers l'estaminet de l'épicier et passa sous la lanterne fumeuse qui jeta un vague rayon à son visage. Les grandes résolutions sont rapides comme l'éclair. Les parents de Saladin se levèrent en même temps tous les deux. « Tu l'as remis, celui-là ? » demanda Similor. « C'est Monsieur Patu, le capitaine de l'aigle de Meaux numéro 2, » répondit Échalot, « sur le canal. »« Comme quoi, » dit Similor, « j'ai eu des raisons suffisantes avec ce conducteur qui m'a insolenté dans sa gabarre. L'honneur commande une tripotée. Quel le prétexte cherché ? Allume. » Échalot aussi appréciait les exigences de l'honneur. Concentrant en lui-même ses émotions, il suivit son ami qui descendait vers la ruelle d'un air crâne. Saladin resta sur le banc. Que dire de plus? Nous connaissons l'âme d'Échalot. Au lieu de nous livrer à une analyse longue et pénible du trouble qui le dominait, nous constatons ce seul fait, il oublia Saladin. Avant d'entrer, Similor s'épousta du haut en bas et tapa son chapeau gris sur l'oreille, mais son aplomb était entamé déjà. Il y a des seuils qui font battre le cœur. Il poussa la porte, cependant. Échalot se glissa derrière lui, ôtant d'instinct son couvre-chef comme un chrétien qui pénètre dans une église. C'était une salle assez vaste, basse d'étage et puissamment enfumée, où une quarantaine de consommateurs buvaient dans un nuage. Ces brûleurs de pipes et ces joueurs de dominos, ressemblant à des petits bourgeois, étaient certainement des gaillards qui en mangeaient. Échalot resta écrasé sous la pensée de son néant. Similor, plus fanfaron, marcha droit au comptoir où une grosse femme, violette en couleur, accueillait justement le capitaine Patu avec un tendre sourire. « Conducteur » appela-t-il d'une voix retentissante. Le marin d'eau douce se retourna en tressaillant au milieu de son compliment d'arrivée. « Sois calme, Amédée, » glissa Échalot. « Comme quoi, » reprit Similor avec éclat, « vous devez reconnaître un jeune homme qu'a eu à se plaindre de vous dans l'exercice de vos fonctions de batelier de dessous et qu'a promis de vous casser une aile en deux sans se fâcher à pied comme à cheval, contrepointe, canne, baïonnette ou simplement chausson français, rien dans les mains, rien dans les poches. » Un éclat de rire, bruyant et rauque, accueillit la conclusion de ce discours, qui enleva immédiatement l'approbation générale. Échalot regarda Similor d'en bas et le trouva grandi de 30 coudées. Par tout pays, le mari de la reine est entouré de jaloux. Le capitaine Patu n'échappait pas à ces inconvénients du bonheur. Quand la dame est maîtresse de l'épicier, parla de faire jeter Similor à la porte, il y eut un murmure. « Les mendiants ne seront pas reçus dans une maison honnête !» voulut insister aigrement la souveraine, qui répondait au guénon de Madame Lampion. « Et si on vous cousait le bec avec un mot d'amitié, ma grosse nounoute ?» demanda Similor, qui reprenait plante. « Si on vous disait à l'oreille, fera-t-il jour ?» Il n'acheva pas. Son nez, sa bouche et son menton disparurent dans son chapeau gris, brusquement enfoncé d'un coup de poing appliqué de main de maître. Tonnerre de gaieté dans la salle. Échalot eut le réveil du lion. Il retroussa les manches de sa veste, trempa ses deux mains dans la poussière et prit, à la grande joie de la galerie, la garde du boxeur français. Mais, au lieu de frapper, il se tira gauchement une mèche de cheveux et balbutia « Bonsoir, monsieur Picpus. Salut, monsieur Cocotte. Votre serviteur, papa Rabot. » Monsieur Picpus alla au comptoir et dit à l'oreille de la reine Lampion « C'est les agneaux de toulonner l'amitié, pas de bêtises. » Et comme elle ouvrait la bouche pour répliquer, Picpus ajouta « Ils ne dureront que jusque demain soir. » Quelques minutes après, Similor et son fidèle Échalot étaient attablés dans le troisième ciel, c'est-à-dire au milieu de 15 ou 20 artistes qui tous en mangeaient. Ce fut une nuit enchantée. On fit la poule, on ne parla pas à faire. Nos deux amis se sentaient transformés par le frottement de cette auguste compagnie. Leur rêve était désormais une réalité. Il est des enivrements si naturels qu'on n'a pas la force de les stigmatiser. D'ailleurs, combien de fois déjà Saladin n'avait-il pas été oublié, soit sous un meuble, soit à un clou, mais sans danger pour sa santé. Vers 4 heures du matin, un mouvement se fit. Un personnage qui semblait de première importance entra mystérieusement par la porte qui donnait sur le chemin des amoureux. Ce personnage, coiffé d'une chevelure noire, portant de gros favoris et muni de lunettes bleues, éveilla chez nos deux amis une vague réminiscence. Ils ne firent du reste que l'entrevoir, et ils avaient l'œil un peu troublé par le trop de bonnes choses qu'ils avaient goûtées. Monsieur Lecoq n'avait ni favori noir ni lunettes bleues. Picpus leur dit, au moment où ils cherchaient à rassembler leurs souvenirs, « À la niche, mes biches, le rendez-vous tient à 11 heures du matin, ici, vous verrez le maître à tous, monsieur Mathieu. »« Trois pattes et le maître à tous ?» s'écria Échalot. Et Similor, moins facile à étonner, « Je m'en étais toujours douté que les clopés participaient. » Il faisait encore nuit noire quand ils reprirent l'allée qui menait au boulevard. Similor allait de l'avant, la poitrine élargie et le cœur agrandi. « Comme quoi, » dit-il, exhalant la pure joie de son triomphe, « tu vois reluire à l'horizon tout l'éclat de notre avenir. » Échalot, dont le cœur et l'estomac étaient pleins, se précipita sur lui et le serra dans ses bras en murmurant « Ah, le petit aura donc un sort !» Mais cette phrase se termina par un cri douloureux. Il s'arracha des bras de Similor pour tâter ses deux aisselles et son dos, place ordinaire de Saladin. Saladin n'y était pas. Par un instinct touchant et comique, il fouilla dans ses poches. Point de Saladin. La mémoire lui revenait. Il poussa un bêlement plaintif et s'élança comme un trait vers la galiote. « Parbleu, disait ce stoïque Similor, pas de danger qu'on le vole. » Il pressa le pas, parce qu'une clameur sourde arrivait jusqu'à lui. Un homme fuyait, traversant la chaussée, et bientôt une voiture, arrêtée de l'autre côté du boulevard, s'éloigna au galop. Oh, « On a tué la femme, râlait cependant Échalot, agenouillé près du banc. On a tué deux femmes. » Il y avait en effet deux femmes couchées en tas au pied du banc dans une mare sanglante. Le réverbère voisin éclairait la tête de la comtesse Corona, appuyée contre le tas de poussière où dormait Saladin, et le visage d'albâtre d'Edmé Leber, encadré dans les masses mêlées de ses grands cheveux blonds.